Long time no talk, Philippe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, 15h25, cher Philippe, des nouvelles de Romain Grosjean. Est-ce qu'il se remet bien? Parce qu'il a quand même fait un point de presse au lendemain de son accident. Il n'a pas pire. C'est un miracle, cette affaire-là.
Ben, c'est un miracle parce que ce qui lui est arrivé dans le Grand Prix du Bahreïn dimanche, c'est des images. Hein, je pense qu'on les oubliera jamais, Marie-Claude, quand on les voit. Là, sa voiture, sa Formule 1 qui percute la barrière de sécurité, le bolide qui casse en deux, les flammes qui jaillissent. Mais on dirait un puits de pétrole là, qui prend feu. C'est terrible. Et lui, il est dans la voiture.
Oui, puis tout à coup, on voit une forme apparaître qui essaie de grimper à la clôture, puis il a l'air pris dans la clôture en plus. C'était très énervant.
C'était très énervant. Il a passé 28 secondes dans le feu, dans le brasier. Et là, il a donné une entrevue à la télévision française, une entrevue beaucoup plus en profondeur. Et il dit, Marie-Claude, c'est vraiment fascinant de lire ça, il dit, j'ai vu la mort arriver. Mm. Et là, il raconte comment il a vécu ces secondes-là. C'est vraiment... Je vais te lire un extrait parce que c'est assez prenant. Il dit, j'ai vu ma visière tout orange, les flammes autour de moi, et m'est venu à l'esprit l'accident de Niki Lauda. Alors, Niki Lauda, on s'en souvient, c'est le pilote autrichien qui avait été brûlé au visage, défiguré dans une course de Formule 1. Alors là, Romain Grosjean enchaîne, il dit, moi, je voulais pas finir comme ça, il fallait que je sorte de l'habitacle pour mes enfants. Au final, j'ai les mains brûlées, une grosse entorse, alors que je pensais m'être cassé le pied. J'ai eu plus peur pour mes proches, mes enfants en premier lieu, mais aussi pour mon père et ma mère. Je n'avais vraiment pas peur pour moi. J'ai vu la mort arriver. Je n'avais pas d'autre possibilité que de sortir de là.
Incroyable. Ce qui est à souligner aussi, je lisais hier ou avant-hier, c'est que c'est un des éléments un élément avec lequel il n'était pas d'accord, le halo. Il n'aimait pas ça, lui en voulait pas, puis c'est ce qui lui a sauvé la vie.
C'est un équipement de sécurité qui a été ajouté il y a quelques années, puis c'est pas tous les pilotes qui étaient d'accord, parce que bon, ça compliquait un peu leur tâche, ils étaient moins à l'aise dans l'habitacle, et finalement, on leur a expliqué, écoutez, vous n'avez pas le choix, là, c'est une mesure de sécurité qui est essentielle. Il y avait eu un grave accident en piste, puis on a conclu que les dommages auraient été beaucoup moins grands, les blessures et tout ça, si cet équipement-là avait été en action à ce moment-là, avait été adopté. Alors là, on met ça, le halo, et ça sauve la vie de Romain Grosjean, mais aussi la rapidité. Tu as vu l'équipe de sécurité bondir, puis vraiment aller éteindre les flammes. C'était quand même assez impressionnant de voir ça. Mais tu sais, Romain Grosjean est très lucide. Hein? Il dit, écoutez, c'est clair que je vais avoir besoin d'aide psychologique au cours des prochaines semaines. On ne se remet pas d'un choc comme ça aussi facilement.
Bien d'accord. Et toujours dans ce même sport hautement dangereux. Quoique, certains disaient depuis des années que c'était plus dangereux, la Formule 1, parce qu'il était tellement protégé.
Il y en a encore des accidents.
Mais là, c'est pas un accident, mais par contre, Lewis Hamilton ne sera pas du prochain Grand Prix pour des raisons tout autres.
Ben, comme bien des athlètes, lui aussi a subi un test positif à la COVID-19. Il aurait côtoyé quelqu'un qui avait le coronavirus avant de se rendre au Bahreïn, mais là, il a été testé. Il se sentait pas très bien lundi matin, des symptômes légers. Le diagnostic est arrivé, c'est positif. Donc, il va rater le prochain Grand Prix qui a également lieu au Bahreïn. Là, en raison de la COVID, on a rebâti le calendrier. Puis là, on a des courses au même endroit en fin de saison. Mais Lewis Hamilton, de toute façon, est déjà champion. Alors, c'est simplement des victoires qu'il ne peut pas additionner à son palmarès.
En effet. Changeons de sport pour parler de hockey. Écoute bien, selon à qui on parle, si on parle aux représentants des joueurs ou aux représentants de la direction, ça reprendrait début janvier ou ça reprendrait presque fin janvier.
C'est ça. Là, il y a des informations qui commencent à circuler. Là, Pierre Lebrun a fait état sur Twitter un petit peu plus tôt aujourd'hui là, que selon certaines personnes dans le hockey, la date du 1er janvier, ça devient de plus en plus serré parce qu'il faudrait une entente très rapidement. Les camps d'entraînement commenceraient très rapidement puis les joueurs devraient s'entraîner pendant la période de Noël, alors qu'on sait que la convention collective prévoit un congé de 3 jours à Noël. Alors là, imagine, ils s'en vont s'entraîner, la famille à travers tout ça dans ces temps de COVID. Moi, Marie-Claude, on en a parlé, j'en ai parlé avec Patrick la semaine dernière aussi. Oui. Je crois pas à ce retour du 1er janvier. Peut-être que ça arrivera. Mais tu sais, tu regardes encore les nouvelles aujourd'hui, là, partout au Canada. T'écoutes le premier ministre Trudeau, t'écoutes le premier ministre Legault, tu vois en Alberta où il y a 2 équipes de la Ligue nationale de hockey, combien ils sont en train de perdre, où ils ont déjà perdu le contrôle de la situation. Puis tu dis quoi, là? La Ligue nationale de hockey va reprendre ses activités à ce moment-là? Tu sais, je trouve que ça n'a pas vraiment de bon sens. Il faudrait attendre un peu que la situation se stabilise, qu'on laisse passer le temps des fêtes, parce que les joueurs, là, ils vivront plus dans des bulles. Ils vont côtoyer des gens, eux aussi, dans le temps de Noël et tout. Alors, je pense que ça va prendre un minimum de quarantaine pour les joueurs avant de rejoindre leur équipe et de s'assurer qu'on puisse tenir un retour au jeu dans des conditions optimales. Parce que ça donne quoi de faire un retour au jeu précipité écouter le 1er janvier parce que c'est la date qui a été fixée il y a quelques temps. Et puis de risquer que le 15 janvier, tu sais, t'es plus capable de fonctionner. T'as la moitié des équipes où il manque des joueurs et tout. Je trouve que ça a pas tellement de bon sens.
En fait, je pense qu'en ce moment, ce qu'il faudrait, c'est que les directeurs, les dirigeants de la LNH regardent ce qui se passe au football américain.
Ouais.
Ça
ben, voilà.
Une idée de.
Ben oui.
Tu sais,
puis
en
plus.
Faire.
Ben c'est ça, puis en plus on le sait que bon le hockey, je comprends qu'il y aura pas de spectateurs, mais on joue le hockey dans des endroits, dans des stades fermés, le football dans la plupart des stades on le joue à l'extérieur, mais tu sais malgré tout il y a des réunions de joueurs, il y a tout ça, alors ça devient très difficile de garder le contrôle de la situation quand t'es pas dans une bulle.
En effet.
La bulle ça a fonctionné, mais quand t'es pas dans une bulle c'est dur.
En effet. Donc justement parlant de football américain, dis-nous donc ce qui se passe là maintenant du côté du match Ravens Steelers.
Abondamment parlé hier.
COVID oblige.
Oui, c'est ça, le match qui devait avoir lieu, là, je le rappelle, jeudi soir dernier. C'était le gros match du soir du Thanksgiving. A été remis à dimanche, a été remis à mardi. Et là, finalement, il va avoir lieu mercredi, mais demain. Donc, demain après-midi, il y a une drôle d'heure. Là, les gens qui se disent, hey, je vais pouvoir écouter un bon match de la NFL chez moi mercredi soir. Oubliez ça, le match a lieu à 15h40.
On va se sentir comme au jour de l'an. Il y a du football toute la journée,
peut-être,
puis à Noël.
Remarque,
puis
avec le télétravail, aujourd'hui, tu peux peut-être faire une petite entorse à ton travail et ouvrir ta télé et surveiller Ravens Steelers ce point-là. J'ai l'impression que bien des amateurs vont le faire. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Il y aurait des joueurs des Ravens qui pourraient participer au match, même s'ils avaient encore la COVID. Ils ont testé positif récemment, mais là, on dirait que leur période de confinement a assez duré. Alors, on joue peut-être un petit peu avec le feu, mais là, tout indique que le match va avoir lieu demain à 15h40.
Bon, eh bien, il nous reste encore un tout petit peu de temps pour que tu nous parles du FC Toronto.
Oui, le FC Toronto qui s'est séparé aujourd'hui de son entraîneur Greg Vanney. Greg Vanney, c'est un gars qui a eu beaucoup de succès avec le FC Toronto. Il les a menés au championnat de Major League Soccer, des succès internationaux aussi. Officiellement, il démissionne, mais tu sais, ça ressemble beaucoup à une démission où, tu sais, quand tu démissionnes, mais le patron ne fait aucun effort pour te retenir. Là,
quand tu te fais démissionner.
Oui, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Alors, Toronto lui a souhaité la meilleure des chances et puis ils ont dit que dès maintenant, il se mettait à la recherche d'un nouveau coach.
Bon, ben, coudonc. Alors, écoute, quelque chose me dit qu'on va reparler de hockey dans une heure.
Ben oui, parce qu'il y aura Martin McGuire qui est là. Puis, Martin, tu sais que le Canadien est assez habile. Là. Le Canadien multiplie les conférences de presse sur Zoom. Ça permet de faire parler de l'équipe. Hier, c'était Dominique Ducharme. Aujourd'hui, c'est Luke Richardson. On va parler d'Alexander Romanov, le jeune espoir en défense du Canadien avec Martin.
Excellent. Ben, je te dis à tout à l'heure et merci beaucoup, Philippe. Ben, en fait, on se retrouve même à 15h50.